Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
4h15 de conférence de presse, il fallait au moins cela pour Emmanuel Macron, un Macron enfin candidat avec un premier déplacement de campagne aux côtés de François Bayrou à Pau. Avec 31% d'intention de vote au premier tour, il est non plus le grand mais l'immense favori à sa réélection. Quelles sont ses faiblesses, ses obstacles, comment va s'organiser la campagne des autres autour de lui. Est-ce que c'est lui qui donne le là ou pas forcément, premier sujet des grandes voix. Quelle n'a pas été notre surprise à tous en voyant Vladimir Poutine hier dans un stade bondé à Moscou. 100 000 Russes plutôt jeunes, drapeau blanc, bleu, rouge à la main, chantant pour Poutine et pour la Grande Russie, se faisant donc les complices des massacres en Ukraine. Pendant ce temps, les survivants du théâtre de Mariupol racontent « Le conflit a passé un cap ». On tue désormais de sang-froid les civils, on vise sciemment les refuges où se trouvent les enfants. Quel rôle aussi de la diplomatie, surtout quand Washington parle de Poutine comme d'un criminel de guerre. Enfin, que faut-il faire avec la Corse? Vaste question qui se pose depuis plusieurs décennies. Et voilà que l'exécutif, via le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, va proposer un dispositif allant jusqu'à l'autonomie. Proposition ferme ou coup de bluff? Qui va décider de cela? On en parle en fin d'émission. Vous avez le programme? Les grandes voix, c'est parti. À 22 jours du premier tour de la présidentielle, le président sortant est enfin candidat. Sur le terrain, aux côtés de François Bayrou, et puis ses 4h15 de discours fleuve à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, département connu pour être le plus pauvre de France, rien n'est laissé au hasard. Un programme annoncé comme celui de la continuité de son mandat, rien d'étonnant. Quelques annonces à la clé et une opposition qui le taxe de l'homme photocopieuse qui s'est approprié le programme des autres. C'est comme ça qu'on peut résumer cette entrée en matière?
Ben écoutez, c'est pas forcément. Ce qui m'a frappé, moi, la première chose, c'est qu'il est fidèle à lui-même et il est cohérent avec lui-même. Je veux dire par là qu'il est long, 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 j'allais dire comme un jour sans pain. C'est-à-dire que, Moi, j'ai été dans mon fauteuil. J'y suis resté comme tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde d'ailleurs, mais comme beaucoup, pendant 1h30 pour entendre la péroraison de départ, plus 2h30 pour faire les questions, 4h, je trouve. Alors, 4h, un peu plus de 4h. Je trouve que ce n'était. C'est, le fond parfois rejoint la forme, ou la forme rejoint le fond. On ne fait pas, à mon sens, le grand discours présidentiel en entrant dans les détails comme un Premier ministre faisant son discours de politique générale. Vous voyez ce que je veux dire? Les Premiers ministres qui font leur discours de politique générale à l'Assemblée, c'est leur premier discours, et ils rentrent dans les détails, c'est normal, c'est le boulot. Mais le président, enfin, celui qui veut être président en campagne et donner le souffle de son deuxième mandat, il donne des grandes lignes fortes, etc. Et là, de ce point de vue, alors il y a eu plein de choses intéressantes, on va en parler, mais il y a eu, à mon avis, ce manque de ce grand souffle de dire, bah oui, Macron, on voit ce qu'il veut faire. Il y a trois trucs qui m'ont vraiment frappé. Voilà.
Catherine, au début, il y avait le verbe, c'est ça?
Oui, c'est ça. On pensait à l'évangile. Au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il était là. Mais Macron a fait du Macron parce qu'on se souvient de ce qu'il avait appelé les débats avec les maires. C'était des one-man shows interminables. Il y en a un qui avait duré 6 heures. Et moi, je m'en souviens parce qu'on avait commencé à le regarder ici, au studio. On était venu dans le journal de 19h pour en dire ce qui avait déjà été dit, commenter. J'étais rentrée chez moi. Puis vers 9h30, j'avais rallumé la télé. Il parlait toujours. Je dis, tiens, c'est une rediff. Eh ben non, il parlait toujours. Et donc, il était devant des maires, c'était dans le Lot, ou qui étaient venus de 13 départements, qui avaient fait de la route. D'ailleurs, c'est un miracle, il n'y en ait pas eu un qui soit mort parce qu'il y avait un brouillard cette nuit-là. Ils n'arrêtaient pas. Et je voyais les maires qui n'ont pas bougé. Je me suis dit, ils n'ont pas été faire pipi, ils n'ont pas bu. Enfin, je me disais, comment ils tiennent? Maraboutés.
Il y avait la soirée des intellectuels aussi à l'Élysée.
Oui, et la soirée des intellectuels, où il les a fait venir à 19h, et c'était des gens, les intellectuels, parmi eux des gens âgés, en leur offrant un petit buffet dont ils s'en sont plein, où il y avait trois amuse-gueules, trois crevettes et trois cacahuètes, jusqu'à 2h du matin. Et lui, si les gens n'étaient pas partis, il y serait encore toute la nuit. Donc moi, je trouve que c'est quand même un dérèglement de quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je trouve que c'est un incontinent du verbe. Bon, il a un talent fou, mais moi, ça me gêne de quelqu'un. Et tous les conseils qu'on peut lui donner, y compris Brigitte, elle n'arrête pas elle le convainc qu'il faut faire court.
Michel Cotta.
Oui, moi j'ai trouvé que la péroraison de la première heure était assez bien construite, parce qu'après tout, il était un peu, j'ai pensé à Giscard d'ailleurs en l'écoutant, avec il y a trois points, puis chacun des trois points, il y avait trois points.
Trois sous-points.
C'était bon, très, très construit. Bon, au-delà, c'est vrai qu'il s'est laissé prendre par les questions journalistes, à tout moment, on peut arrêter les questions des journalistes, on peut dire j'en prends encore deux ou trois. Bon, alors est-ce que, je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'on lui a dit vous n'avez pas débattu. Vous avez.
Non. Bon, alors. Parce qu'il aime ça.
Oui, c'est, voilà. Je pense que. Alors, maintenant, Catherine a dit quelque chose d'intéressant qui était marabouté.
Oui.
Parce que, quand même, on a vu,
merci,
effectivement, les maires étaient maraboutés.
Ah oui.
Ça veut dire qu'ils pensent avoir une influence sur eux, d'autant plus importante qu'ils parlent plus longtemps, qu'ils leur accordent plus d'importance, qu'ils les regardent dans les yeux. Et je pense que. Ça, c'est peut-être un défaut de jeunesse. Peut-être que quand on est plus mûr, on va plus droit au but. Alors, le problème, c'est est-ce que c'était un discours de candidat ou est-ce que c'était un discours de président ? Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était plus un discours de président reprenant dans la continuité de son premier quinquennat.
Charles Villeneuve.
Mais moi, c'est le contraire. C'est le contraire, je pense que c'était un discours de candidat. Il est rentré dans le détail de la plupart, d'ailleurs, de ses mesures, à tel point que là, il a marabouté, d'ailleurs, l'opposition, parce que l'opposition s'est complètement trompée, dans un premier temps, en l'accusant d'avoir, finalement, développant ses talents avec une certaine science, c'est vrai, du verbe, sur son programme. L'a accusé d'avoir une photocopieuse. Mais si Macron est un expert en contrefaçon, s'il ne fait que piller le programme de Valérie Pécresse ou de la droite, si son programme est de droite et qu'il n'y a rien à redouter de sa réélection, c'est ça. Autant voter pour lui dès le premier tour. Les Républicains ont intérêt à changer de vitesse et de discours, largement, parce qu'il y a de quoi, de toute façon, l'attaquer, insister sur l'ordre, sur la sécurité. Dans l'affaire Corse, le gouvernement a envoyé, pour moi, je considère un très mauvais signal, celui que la violence et l'usage du cocktail Molotov vaut mieux que le travail des élus, vaut mieux que les discussions, que les négociations, etc. Et c'est vrai aussi, parce que la guerre masque de toute façon une détérioration du pouvoir d'achat très important, ne serait-ce que sur le plan de l'énergie, du pétrole, du gaz, tout ce qui va se passer.
Oui.
Et là-dessus, Marine Le Pen a eu raison de faire du thème du pouvoir d'achat son objectif principal. Et d'ailleurs, elle se porte pas mal, indéniablement. Voilà ce que j'ai à dire.
Eh bien, nous parlerons justement des autres autour d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que la campagne s'organise alors que effectivement Emmanuel Macron, candidat, est donné le grand favori pour sa réélection. 10h16 sur Europe.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi, comme tous les samedis, Michel Cotta, Catherine, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Gérard Carrero, vous vouliez revenir sur le fond et sur les annonces effectivement du président candidat.
J'ai parlé de la forme, donc je veux dire un mot du fond, parce que quand même, c'est ça qui compte pour l'essentiel. Je relèverai deux choses qui me paraissent essentielles et très, très, comment dire, très identitaires du macronisme. C'est, une fois de plus, le régalien reste le parent pauvre. Reste le parent pauvre.
On le voit dans
on disait l'angle, oui, tu l'as dit pour l'affaire Corse, mais on peut le dire pour d'autres choses. C'est l'angle mort du macronisme, alors qu'on a bien vu dans au moins les trois premiers mois de la campagne, sous l'action d'ailleurs d'Éric Zemmour, on a bien vu que ces sujets-là, les sujets de l'insécurité ou de la sécurité en général et les sujets de l'immigration, étaient des sujets très importants pour le peuple français. Il y avait des sondages à 70%. Là, dans le discours, franchement, pesez-le dans un long discours, vous verrez que la portion était congrue. Premier point, mais ça c'est Macron, il est dans le déni sur ces sujets. Et deuxième chose, et j'en aurai fini, si vous voulez, son discours était un discours dirigiste libéral ou libéral dirigiste à connotation droitière. Il y avait des petits, zinzins qui montraient qu'il pensait à Sarko, il pensait à Pécresse. Oui. Et ça voulait dire qu'il a une orientation. Il veut chercher l'électorat de droite.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
Je n'ai pas dit qu'il
avait je me suis amusé. Pardon, je me suis amusé à classer.
Toute sa politique passée était au centre droit, de toute façon.
Je me suis amusé à classer, comme ça, les mesures à droite et les mesures à gauche. Et c'est très...
Alors, qu'est-ce qu'on trouve?
Bien, à droite, par
c'est
exemple,
le tirage du loto,
on trouve l'apologie du travail, la rémunération aux enseignants au mérite, la retraite à 65 ans, même si elle est... le RSA conditionné à l'activité, un certain libéralisme économique, la baisse des impôts, etc. Et puis aussi, alors, sur le régalien, effectivement, une ligne sur la mesure contre les séparationnistes et le durcissement des droits d'asile. Bon. Mais enfin, à gauche, on trouve la lutte contre les inégalités à la racine, le versement des aides sociales à la source, le rôle de l'État dans EDF, parce que c'est, on rappelle que c'est pour une première fois une renationalisation, en quelque sorte, la convention citoyenne qui promet donc une volonté de, comme lui dit la gauche, de renouveler la démocratie, et dans ce cas-là, il prévoit la convention citoyenne sur la fin de vie. Avec tout, la retraite à 1100 euros minimum. Bon, tout ça, on voit très bien. Alors, reste au fond ni à gauche ni à droite. Est-ce que la relance du nucléaire, c'est la gauche ou la droite? On a connu la gauche proche du nucléaire. Et l'indépendance,
Roussel,
l'indépendance et la souveraineté, est-ce que c'est un thème de gauche ou un thème de droite? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un thème de droite.
Enfin, la gauche proche du nucléaire, c'est la CGT. C'est le Parti communiste.
Oui, oui, et c'est le Parti communiste.
Bon, c'est
et,
pas le Parti
et c'était Mitterrand.
Non,
et c'était
oui.
À un
c'est
moment
pour
donné,
ça que j'ai parlé de Fabien Roussel.
Et quand tu dis, quand tu dis sur un des points que j'ai souligné, sur le régalien, quand tu dis durcissement sur le droit d'asile, il a dit exactement ce qui était dit déjà il y a 5 ans et qui n'a jamais été appliqué.
C'est autre chose.
Non, mais bon, et puis aussi, il y a quand même sur le quoi qu'il en coûte, là, il a encore lancé à travers toutes ces mesures des milliards d'investissements qui seront payés comment? On n'en sait rien. Et il y a un mot qu'il ne prononce pas. C'est la dette.
La dette.
C'est comme si ça n'existait pas. Et d'ailleurs, il a raison, parce que les Français, pour eux, pour eux, ça n'existe pas. Puisqu'on trouve de l'argent quand on en a besoin,
l'argent
c'est bien
magique.
Qu'il y en a.
C'est l'argent magique.
Et donc, là, quand même, c'est un programme où aussi, il met beaucoup de poussière sous le tapis. Et tout ce que vous dites, là, à la fois sur le régalien, sur la dette et tout ça, ben, une fois élu, ça va ressortir. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il parle comme quelqu'un, au fond, qui sait que l'affaire est pliée, qui va être réélu. Il parle comme quelqu'un qui est déjà réélu. D'ailleurs, quand on lui parle la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez battu? Ah ben là, tiens, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. ah ben, je ferai comme Mme Merkel, je me reposerai quelques mois, puis après, on verra. C'est-à-dire que, voilà, il continuera politique, j'imagine, je ne sais pas. Mais donc, c'est surtout ça qui est frappant.
C'est le poids des sondages. Oui. Ça prouve que le poids des sondages est catastrophique.
Non, mais il a parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi, comme s'il avait déjà la couronne sur la tête.
Oui.
Bon, ça, c'est indéniable. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, quand on regarde politiquement, quand on analyse politiquement son discours... Il a tiré la conclusion déjà que l'électorat de gauche modéré, il l'a déjà siphonné. Bon. Et que pour conduire sa majorité, après les législatives, bien sûr, ce qui lui manque encore, c'est l'électorat de droite conservateur et libéral qui n'a pas encore flanché et qu'il doit rallier. Et il a manifestement fabriqué son programme aussi pour rallier cette droite qui n'a pas encore flanché, d'autant plus que les jeux ne sont pas faits encore tout à fait à droite parce qu'il manque une voix importante, notamment par rapport aux Républicains, c'est celle de Nicolas Sarkozy.
Mmh. Oui,
où
qui
se
n'a
situera
toujours pas.
Nicolas Sarkozy avant le premier tour.
Ouais. Mais pour prendre un point qui vraiment est le marqueur, je pense que s'il n'avait pas la certitude en lui-même qu'il serait réélu, il n'aurait pas lancé à ce moment la retraite à 65 ans. Car n'oubliez pas que la retraite à 65 ans, les derniers sondages rappelés par les directeurs d'office de sondage, c'est 70% des gens qui étaient contre. Quand on prend le risque de l'annoncer comme un des points forts du deuxième, éventuellement, ou de sa reconduction, ça veut dire qu'on est un peu sûr de soi.
Tu te rappelles, qu'il ne l'avait pas annoncé
jusqu'au
la première
bout.
Fois.
Et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci.
Il ne l'avait pas annoncé la première fois. Et donc on lui a reproché après en disant comment vous mettez cet âge pivot, vous mettez cette réforme de la retraite alors que vous ne l'aviez pas annoncé. Donc, effectivement,
il y va
carrément. Et c'est parce qu'il sent que la France est à droite.
Mais parce que finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a besoin de personne,
Charles Villeneuve,
finalement? Est-ce qu'il n'est pas dans cette humeur, dans cette analyse-là, compte tenu de toute façon de la guerre qui favorise ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire le chef de l'État, le candidat sortant? Parce que les Français vont chercher, par rapport justement au contexte actuel, politico-militaire, vont chercher un homme d'État plus qu'un candidat.
Ah oui, il le dit d'ailleurs quelque part, quand on lui dit « est-ce que vous êtes à gauche, est-ce que vous êtes à droite ?» il dit « je m'en fiche complètement ».
Je m'en fiche royalement, présidentiellement. Mais non, mais comment on dit « je m'en fiche »
Ah, ben pourquoi on veut dire, on
parce
s'en
qu'il
fiche.
Applique
on
la
dit
«
est-ce qu'elle est à gauche, est-ce qu'on est à droite ?» Ça fait des années qu'il est entre les deux.
Il
c'est
applique
vrai
la maxime que
sait.
Je disais il y a 15 jours, royalement. 1 plus 1 égale 3.
Oui.
1 plus le Covid, 2 plus la guerre égale 3. Je suis réélu à ce moment-là.
Je vous propose qu'on parle des autres.
C'est
justement,
un président coucou.
Et 4, c'est la crise économique.
Il y a quand même d'autres candidats, donc on va en parler juste après la pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, je le disais, nous sommes à 22 jours du premier tour. Et Gérard le disait parfaitement, il y a 15 jours, le ticket d'entrée pour ce second tour n'a jamais été aussi bas. Revenant de loin, Marine Le Pen est à 15,5 et pour l'instant, beaucoup de choses peuvent encore changer. Bah, c'est elle qui tient la corde pour le deuxième round.
Elle tient la corde pour le deuxième round. Et entre nous,
Michel Cotta,
ça a manqué. Sa campagne est assez intéressante parce que lorsqu'elle a été attaquée par Éric Zemmour, quels étaient ceux qui disaient « Oh là là, dans l'état-major de Marine Le Pen bon, ». Il paraît qu'elle a très bien elle-même personnellement tenu le coup, on dit quelques-uns de ses lieutenants, et qu'au contraire, elle passait son temps à dire au type qui était proche d'elle « Bon, rassure-toi, il y en a 3 ou 4 qui vont partir, mais il faut qu'ils partent tout de suite, etc. » Donc elle a quand même très très bien tenu le coup. Deux, elle vit depuis 5 ans dans... le sentiment qu'elle a raté son débat de 2017.
Exact.
Et moi, je peux vous dire que depuis 5 ans, elle le prépare. Elle le prépare. Et qu'autour d'elle, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais autour d'elle, il y a beaucoup de gens pour le préparer. Donc, finalement, c'est vrai que la longévité et la solidité de Marine Le Pen ont été quelque chose qui ont marqué cette campagne.
Oui, d'ailleurs, son père m'avait dit que finalement, Zemmour lui rendait service. Parce que maintenant, l'extrême droite, c'était Zemmour et plus elle, voyez. Donc, elle s'est rapprochée, enfin, peut-être pas de... Et puis, tout le monde note, y compris dans la Macronie, quand on parle d'elle, ils sont étonnés de voir quel progrès elle a fait. Alors avant, ils souhaitaient qu'elle arrive seconde parce qu'ils disaient qu'il va l'écraser. Mais là, elle est devenue bien meilleure. Et vous savez que Emmanuel Macron et Éric Zemmour ont refusé d'aller devant les maires, les conseillers généraux pour plancher. Bon. Eh bien, David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, m'a dit que la meilleure candidate qui a bien voulu venir devant les maires, eh bien, c'était Marine Le Pen, parce qu'elle a travaillé. Donc, moi, je ne dis pas qu'elle peut l'emporter face à Macron, sûrement pas, mais que cette fois-ci, il aura sûrement beaucoup plus de fil à retordre avec elle qu'il y a 5 ans.
Peut-elle être rattrapée pour le deuxième tour? C'est effectivement la grande question, puisque pour l'instant, elle est en tête de tous les sondages publiés dans les deux dernières semaines.
Oui, constante. Bon.
Effectivement, on a tendance à penser... Moi, j'ai tendance à penser qu'elle ne peut plus maintenant être rattrapée. Elle a fait, effectivement, comme l'a dit Michel, elle a eu des nerfs extraordinaires, des nerfs d'acier, pour le coup, parce que quand on se fait challenger, pour dire un mot plus moderne, par Zemmour, comme elle l'a été pendant les premiers... Moi, il faut des nerfs. Il y a beaucoup de gens qui
seraient... Mais tu sais, elle porte l'immatriculation Le Pen, ça veut dire quelque chose.
Donc, elle a des nerfs. Donc, je pense qu'elle est pour l'instant, elle est difficilement rattrapable. Zemmour, le seul qui aurait pu la rattraper, ou on peut dire un mot de Pécresse, mais Zemmour, le seul qui aurait pu la rattraper, Zemmour, il va probablement pas le faire à cause de son absence dite de sensibilité, aussi bien sur les enfants handicapés à un moment, surtout sur les réfugiés au moment de la guerre. C'est les deux erreurs qui lui coûteront le plus.
Oui. Pourquoi est-ce que Valérie Pécresse est tombée aussi bas?
Pour moi, ne pas aller à la présidentielle sans avoir une idée forte qui structure son discours, c'est déjà se lester d'un fort handicap. Pour moi, c'est la première faiblesse. Se présenter comme elle l'a fait uniquement comme la candidate de l'efficacité, la femme qui fait, et dès son premier meeting, voir ce vote efficace se transformer en vote de l'inutilité, c'est se fabriquer soi-même une ligne rouge qui a été infranchissable et ne plus pouvoir battre le président sortant, d'où la pente descendante.
Michel Cotta.
Je voulais parler de Mélenchon aussi.
Moi, je crois que c'est une fille qui est compétente et ceux qui la connaissent disent mais pourquoi elle ne se montre pas comme elle est, finalement sympathique, ouverte. Elle ne s'est pas trouvée elle-même, elle ne s'est pas montrée telle qu'elle est. Voilà. Elle n'a pas su se présenter et les gens ne la sentent pas. Vous voyez, elle n'était pas connue parce que quand on est en région parisienne, c'est la même chose pour Hidalgo. Vous savez, en province, on dit c'est la brune et la blonde de Paris. Bon, on ne les connaît pas. On dit ça. Mais elle n'a pas appris à se faire connaître parce qu'elle n'a jamais eu l'humilité de se présenter elle-même. Elle a joué des rôles et moi, je pense que son premier meeting, elle s'est fusillée. Mais dans les 10 premières lignes de son premier meeting.
Elle a une vraie compétence.
Ah oui. Oui,
mais dès le début, elle était assise entre deux chaises. Voilà. Et le proverbe le dit, on ne peut pas être assise sur deux chaises à la fois.
Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy ne la soutient pas pour l'instant ?
Oh ben, je pense que ça n'est pas... C'est pas parce que... Je crois qu'il y a un contentieux personnel entre eux. Et disons les choses, il ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Et qui pense qu'au point où il en est, ben, s'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Voilà. Et qu'en plus, il ne voit pas comment elle peut remonter... Il ne peut pas venir à son secours. Donc, moi, à mon avis, il ne la soutiendra pas.
Il ne la soutiendra pas.
Il y a quand même le problème de la position, en gros, du Parti républicain, des Républicains. On voit bien que la position, elle est quand même... on voit que les uns sont tentés quand même vers la droite, voire Ciotti, que les autres sont tentés plutôt par Édouard Philippe et la façon de rallier le plus vite possible Macron. On voit bien que c'est un parti qui a une toute petite assise maintenant. Peut-être ça n'aurait pas été la même chose si Barouin s'était présenté après un vrai adoubement.
Bon,
enfin, elle n'a pas tellement d'espace.
Ouais.
Elle n'a pas d'espace politique.
C'est parce que c'est le parti lui-même qui est entre deux chaises.
Voilà,
justement.
Mais c'est le parti.
On l'a bien vu au moment de la primaire.
C'est ce que j'étais en train de dire.
60-40 pour Ciotti.
Oui.
Alors, il reste Roussel, Mélenchon, Jadot, Hidalgo. Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens-là ?
Alors, Mélenchon, je trouve que c'est un cas important. Parce que finalement, il a fait une petite campagne au début. Il était très en deçà de ce qu'on lui prêtait comme de ce qu'il avait eu. Et puis, on l'a vu progressivement remonter au fur et à mesure.
13,5 chez Hidalgo, IFOP hier, pour
Mélenchon. Hidalgo baisse, que Christiane Taubira ne s'est pas présenté. Et donc, il est devenu quelque part, pour des jeunes notamment, le vote utile pour la gauche. Alors, les gens disent « Ah oui, ben on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit sur tel et tel point, sur le référendum révocatoire, tout ce que vous voulez. » En tout cas, ils se disent s'il y a quelqu'un pour lequel il faut voter. Alors, ça aurait pu être Roussel, qui a fait une très bonne campagne, mais Roussel est apparu quand même un peu léger dans les derniers temps par rapport
sur quel
à
point
cette
de
espèce
vue
de... Les dernières émissions où il a fait plein de plaisanteries de bon ou de mauvais goût.
Il y a quelque chose qui sépare quand même Roussel et Mélenchon, c'est le nucléaire aussi. Vous avez série quand même de militants de gauche qui sont complètement anti-nucléaire. Oui. Quand ils entendent Roussel, ils disent
C'est pour ça qu'ils ne se on est d'accord.
C'est ça la
différence. Si les deux s'étaient réunis et ils auraient pu le faire s'il n'y avait pas le nucléaire.
Oui, il a encore
alors ça aurait pu être.
Oui, mais Mélenchon, c'est le tribun de la plèbe. Il est arrivé au bon moment. Et effectivement,
il peut être troisième.
Je voulais finir là-dessus. Il peut être troisième. On a dit pour l'instant, Madame Le Pen tient la corde à droite.
Mais
il se peut que Mélenchon passe devant à un moment ou à l'autre.
Et on oublie que pour le régalien, il est pour absolument ouvrir les vannes aux immigrés, ne pas renvoyer ceux qui n'ont pas droit d'asile. Il garde tout le monde. Il l'a dit dans une émission à Digne et tout ça. Mais il est très dangereux. On n'imagine pas ce que c'est. Oui. Mais il plaît parce qu'il a du talent, qu'il a du caractère.
Pas seulement. Moi, je trouve que malgré le contexte de la guerre, il accomplit une vraie performance parce qu'il a remis au premier rang la question sociale. La question des inégalités sociales, la question de la distribution des richesses. Il a plaidé par rapport à ça et ça a payé de la même manière que Marine Le Pen a beaucoup misé sur les inégalités sociales aussi. le pouvoir d'achat, lui, a misé sur ce double aspect, richesse et inégalité sociale.
Anne Hidalgo dit ça aussi, elle est à deux.
Oui, mais dans le fond, moi je crois que Mélenchon...
Pas avec le même talent, pas avec le même talent.
Mais c'est ça qui change, alors.
Pas avec la même constance. Le français...
Quand vous entendez Anne Hidalgo, c'est exactement ce que vous venez de dire.
Mais il y a 20% de gens qui sont à gauche encore dans ce pays, entre 20 et 25%. Et ils ont quand même envie d'avoir un candidat qui marque...
Qui est solide.
Voilà, leur identité.
Qui est solide, mais bipolaire et dangereux, avec des...
Ils, ont pris le plus... Ils vont prendre le plus solide.
Non, mais on le voit au municipal.
Bah oui.
Il y a une assise.
Oui, le plus brillant.
Et de très loin, c'est vrai, on a toujours été attaché au verbe. On a fini... je ne sais pas si on a encore choisi entre Danton et Robespierre, mais c'est plutôt Danton, même si en réalité, sur le fond, c'est Robespierre.
Dans un instant, on parle de Vladimir Poutine. Vous restez avec nous, ce sont les Grandes Voix.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h...
Pierre de Villeneau.
Avec les grandes voix autour de la table, Catherine Ney, Michel Cotta. Je vais y arriver. Gérard Kérérou. Et, non, parce que je vois Vladimir Poutine. Et Charles Villeneuve, qui n'a rien à voir avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a surpris tout le monde hier en apparaissant dans un stade bondé. Au moins 100 000 Russes, dont beaucoup de jeunesse, rassemblés, chantant la gloire de la Grande Russie, celle de Poutine. L'intéressé acclamé tel une rockstar à ressasser ses couplets de la dénazification de l'Ukraine devant une foule en délire. Pendant ce temps, le conflit s'intensifie. Charles Villeneuve, les bombardements sont plus nombreux, s'opèrent de façon létale, visant maternité, centre pédiatrique et refuge abritant des enfants.
Mais l'armée russe fait ce qu'elle a fait en juillet 2017 à Alep. Vous savez que la commission d'enquête, et j'ai lu une partie du rapport de l'ONU, sur la férocité, la cruauté de l'armée russe à Alep. C'est l'armée russe et l'aviation russe et l'artillerie russe qui a détruit quasiment Alep, deuxième ville de Syrie.
Ce qu'ils avaient fait à Grozny aussi.
Oui, mais là, c'est plus ancien. Parce que c'est une armée rénovée, modernisée, avec des buts de guerre qui sont la dénazification, c'est-à-dire en réalité le changement de régime. C'est ça le véritable but de guerre. Et l'armée russe, malgré tout ça, est à la peine, indéniablement. Elle n'a pas prévu la résistance farouche des unités territoriales de l'Ukraine, ni de l'armée ukrainienne. Et elle a du mal à atteindre ce qu'on appelle le point culminant de la guerre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les capacités de résistance de l'Ukraine sont telles aujourd'hui que les capacités d'attaquants de l'armée russe sont prises en défaut. Et donc là, je vous donne simplement sur la journée du 5 mars, avec les Stinger, l'armée ukrainienne a abattu 5 chasseurs, ce sont des chiffres extrêmement précis, 4 hélicoptères de combat. Et donc, il y a des désertions, indéniablement, et il y a surtout une capacité de ravitaillement pris en défaut. Voilà sur le plan militaire. Et quand, en ce qui concerne le show de Poutine, modernisé sa communication, au même titre, il a pris l'exemple de Zelensky. Il a très bien vu que Zelensky faisait un tabac sur la planète entière. Et donc, il est sorti de son bunker, et puis il a fait le show devant, évidemment, un certain nombre de jeunes russes mobilisés pour la circonstance.
Catherine.
Oui, hier, quelqu'un m'a donné, parce que les mieux renseignés sur ce qui va passer, ce sont les Américains, qui d'ailleurs débloquent 15 milliards de dollars pour aider l'Ukraine.
Et les Anglais.
Et qui ont tous les chiffres. Et hier, cet homme qui m'a renseigné m'a dit qu'il y a eu 12 000 morts russes côté russe, et plus de 45 000 hommes hors service parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils se font insulter.
Toujours dans les troupes russes.
Dans les troupes russes. Donc là, il y a quand même, et c'est pour ça que ça avance peu pour entourer les villes,
sauf
notamment
dans le sud.
Kiev, sauf dans le sud. Mais hier, le ministre de la Défense russe a dit avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques. Kinjal, tu me diras ce que c'est, Charles, puisque tu sais tout ce que c'est, toi. Et il paraît qu'ils détruisent les entrepôts souterrains où il y a des armes, parce qu'en Ukraine, il y a des armes, beaucoup d'armes.
Oui, ce sont des missiles très puissants qui ressemblent à un petit avion de chasse, d'ailleurs. Hein.
Oui,
c'est ça, Charles.
Ce sont des missiles.
Mais moi, tu vois, j'en aurais fini. Moi, ce qui m'a fait le plus... Bon, c'est très bien, hier, le one-man show, le grand show pour Poutine. Mais ce qu'il avait dit la veille, la violence des propos pour dire... Il a défendu son opération militaire. Selon lui, c'est l'Empire. Il dit « Chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche, a dit monsieur. Voilà. Il parle d'autopurification. C'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui, eh bien, ils seront vraiment très maltraités et envoyés au goulag.
Ce qui est intéressant, à travers ces déclarations-là, c'est le Poutine de Grozny disant « On les poursuivra s'il le faut jusque dans les chiottes. »
Oui.
Ça, c'est le Poutine.
Oui.
C'est le même Poutine. Par contre, moi, je veux dire un mot. Ce qui me navre à la fois et me scandalise aussi, c'est le comportement du président des États-Unis dans cette affaire. Le président de la première puissance du monde, Biden, dont on avait dit souvent qu'il était un peu fatigué, parfois on dit même qu'il est un peu malade, mais il est effectivement, il n'aide pas à la résolution du conflit.
Il n'aide pas à la diplomatie mesurée.
En traitant effectivement
de criminels
de guerre. À trois reprises, une première fois de criminels de guerre. C'est quand même dur le mot criminel de guerre. Mais quand on est le président des États-Unis et qu'on parle du président de la Russie. Il le traite une deuxième fois de sale voyou et puis une troisième fois, évidemment, de dictateur. C'était le dictateur, c'est
Anthony
presque
Blinken,
le film de Chaplin.
Et dans son relais, il a Blinken qui lui colle au train, qui est effectivement incapable d'avoir, qui n'est pas un bon ministre des Affaires étrangères américain et qui ne fait que répéter comme le caniche. C'est le caniche de Biden.
Nous, on l'aimait parce qu'il parlait français,
et je trouve
ça suffit
que le leadership occidental, heureusement, je dirais qu'il y a Macron. Heureusement qu'il y a Macron qui tient bien sa place au niveau de l'Europe.
Je vais te dire, Macron, quand il se déguise en Zelensky, qui se fait photographier...
Sur le fond, il n'a pas failli. Tandis que Biden, à mon avis, il a failli.
En revanche, ce que je veux dire sur la Russie, on est quand même loin de savoir ce qui s'y passe. Et quand j'entends tellement de gens dire qu'une opposition démocratique, c'est vrai que beaucoup de gens s'en vont, préfèrent s'en aller, des journalistes notamment, ou des intellectuels. C'est vrai aussi qu'il y a sans doute quelques personnes qui manifestent, y compris la jeune fille avec son nom à la guerre,
à la télé.
Mais je ne suis pas sûr que ce meeting, qui est un meeting tout à fait organisé, je veux bien, une communication moderne, ne reflète pas quand même quelque chose d'important dans la Russie. Les Russes ne sont pas tous au courant. Ils sont loin d'être tous au courant de ce qui se passe vraiment en Ukraine. Ils sont loin de ne pas partager l'avis que l'Ukraine... Il y a plein de nazis.
Vous avez vu Arnold Schwarzenegger qui s'est adressé au peuple russe via une vidéo et qui leur explique justement ce qui se passe.
Justement, donc il faut dire qu'il y aura une révolution interne autour de Poutine me semble nettement prématuré.
Surtout dit qu'elle aura lieu dans les 15 jours, comme un certain nombre de stratèges en chambre.
Mais vous savez, il s'est passé quelque chose hier pendant le meeting. Pendant un moment, toutes les lumières et les dedans sont arrêtées. On dit c'est un incident technique. Mais certains disent, mais non, c'est peut-être des groupes comme Anonymous. Avant, on croyait qu'ils étaient pro-russes. Et maintenant, qui peuvent... Il n'y a plus rien qui fonctionne en Russie. Tout ça.
Parce qu'il y a pas... qu'il y en a un qui a éteint donc, la régie.
Attention quand même à la propagande.
Attention à la propagande des deux côtés.
L'une des meilleures spécialistes françaises des stratégies russes, Isabelle Falcon, qui a écrit d'ailleurs un remarquable petit livre sur la nouvelle armée russe, qui est intervenue sur Europe 1 la semaine dernière et qui a écrit avant-hier un éditorial dans Le Monde, dit quelque chose de très juste. Le Kremlin viendra à la négociation lorsque le Kremlin et Poutine afficheront des succès militaires évidents. C'est à partir de là que les négociations se noueront.
Mais c'est quoi un succès militaire évident ?
Succès militaire, c'est la chute de Mariupol, c'est le siège autour de Kiev.
Odessa,
ce sera une attaque. Très belle ville et surtout clé de l'export du blé.
Ville de Catherine Deneuve, j'espère qu'il ne la détruira pas.
Mais vous savez qu'il a construit, le duc de Richelieu d'ailleurs, un collabo du tsar contre Napoléon. Bon, on a toujours eu ce talent des collabos. Et on est loin encore de ce
donc
que
la guerre est, donc la guerre n'est pas finie.
Ça veut dire encore deux ou trois semaines de guerre au moins.
On ignore encore les choses. On ignore et le but de guerre. On n'est pas d'accord sur le fait qu'il veuille raser. Il veut raser l'Ukraine. Moi, je veux bien, mais je ne vois pas savoir ce que ça lui apporte.
C'est pas ça le but de guerre. Il te l'a donné, il te l'a répété durant son meeting dans le stade de Moscou, c'est la dénazification, c'est-à-dire la chute du régime et l'installation d'un régime fantoche.
Voilà. Ah, non, non, mais j'ai bien, j'ai bien compris.
C'est ça, le mais la de prise des deux ports du sud de
Moscou. Alors,
non, mais ça, j'ai bien compris. Mais si ça doit passer, si ça doit passer par la destruction de l'Ukraine, ça devient complètement fou. Parce que ce n'est pas pareil que Grozny, ce n'est pas pareil qu'Alep. La destruction complète de l'Ukraine pour la Russie, ça veut dire des choses insupportables. Et pour les orthodoxes, et pour les anciens communistes.
Catherine, dernier mot.
Oui, et s'il connaît l'histoire, et c'est que quand Staline s'est emparé de l'Ukraine en 1945 en chassant les Allemands, eh bien, il y a eu une résistance qui a duré 10 ans. Ça a été une sorte de guerre civile où les Ukrainiens étaient dans les bois, enfermés en sous-sol et tuaient des Russes. Donc je pense qu'il gagnera peut-être, mais la résistance s'installera. Hein.
Une nouvelle pause et on part en Corse.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix et cette question, que faut-il faire avec la Corse? Vaste question qui se pose depuis des décennies. L'exécutif, via le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, propose un dispositif allant jusqu'à l'autonomie. Gérald Darmanin, qui d'ailleurs a eu une déclaration... qui vous a choqué, Catherine Ney?
Oui, c'est quand il dit que ce qui est arrivé à Colonna, dans la prison où il s'est fait tuer, enfin, où a tenu pour mort sous les coups d'un islamiste, il dit que c'est un acte terroriste, comme pour Samuel Paty. Eh bien, moi, ça me révolte, parce qu'on ne peut pas dire que comparer Colonna et Samuel Paty. Samuel Paty, c'était un professeur qui faisait les cours, et quand même, Colonna, même si c'est très triste ce qui lui arrive, c'est un type qui a tué un préfet. Eh bien, moi, je trouve qu'on ne met pas là, dans le même sac ces deux attentats.
Voilà. Gérard Carreiro.
Comme on a très peu de temps, je vous renvoie à un article formidable dans le Figaro d'hier matin, une tribune de Jean-Éric Chatol, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, je prends juste la dernière, une phrase, « Ces ouvertures, il parle de Darmanin, ces ouvertures ne reflètent-elles que la volonté panique d'apaiser une émeute surgie au plus mauvais moment ?» Et il l'explique juridiquement, il ne faut pas changer. Mmh. On a eu 4 statuts depuis 82.
De toute façon, on a reculé d'une manière vraiment excessive et à la première, si j'ose dire, au premier cocktail Molotov. Il s'agit de l'assassinat d'un préfet. Et moi, quand j'entends maintenant toute la Corse dire « Ah, il faut que les deux autres viennent dans notre pays. »
Il
faut les libérer.
Oui, c'est la revendication des jeunes
que
étudiants.
Ça s'est passé trop vite. Voilà. Alors peut-être que la situation était plus insurrectionnelle parce qu'il y a plus de jeunes qui se sont manifestés. Mais je trouve que là, vraiment, la campagne électorale a beaucoup joué.
Catherine.
La campagne électorale a beaucoup joué.
S'il suffisait d'un nouveau statut pour régler le problème corse, il y a longtemps que le problème serait réglé. Donc c'est autre chose.
Moi, je suis pour l'autonomie. Corse, mais pas pour le mauvais signal donné par le gouvernement qui, d'entrée, de toute façon, cède absolument tout et à la violence.
C'est ce que dit ce monsieur cité
par Jean-Pierre. Tout à fait.
La panique.
On peut tout obtenir par la violence plus que par le travail de négociation des élus.
Mais est-ce que c'est parce qu'on est dans une période, électorale que l'on va sur ces terrains d'autonomie?
Il est porté par le fait que, chef d'État, la guerre, de toute façon, sert un homme d'État, indéniablement. C'est ce qu'on a appelé, répété sans cesse, et tout le monde a écrit, l'effet drapeau, qu'on avait souligné ici, dans cette émission, il y a déjà 3 semaines. Bon, et aujourd'hui, c'est un mauvais signal aussi pour la métropole. Bien évidemment, pensons aux Gilets jaunes. On a vu déjà le président de la République un peu faiblir sur la dimension soulignée aussi bien par Gérard que par Catherine Ney, que par Michel, c'est-à-dire le régalien. Le régalien, c'est l'autorité aussi. Cette autorité, elle recule toujours par rapport à la violence, par rapport au
cocktail Molotov. Elle a toujours reculé en Corse. Elle a toujours reculé en Corse, malheureusement, d'un statut à l'autre.
Merci les grandes voix. Merci Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreiro. On se retrouve la semaine prochaine. Et bonjour à vous Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Alors ce samedi, on va rendre hommage à l'un des pionniers de la gastronomie française. C'est le chef Fernand Point. Et puis ce soir, c'est France-Angleterre au rugby. Alors on va passer la cuisine anglaise à la casserole et à bas les préjugés, je vous vois venir. Et le musicien Yvan Cassard vient casser la croûte avec nous. Voilà, à tout de suite.
Un petit fish and chips. Allez, à tout de suite.